Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, tigot.
Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, tigot, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission La Complainte du Travail. J'imagine qu'on vous a manqué depuis notre dernière émission du mois de décembre. Lors de la dernière émission, on vous avait annoncé la fin de notre émission, mais devant le lot de protestations que ça a suscité, on a pris la décision de revenir à l'antenne, mais notre formule va être modifiée. Dorénavant, vous allez pouvoir nous syntoniser à tous les derniers mardis du mois. Moi, je me présente, je suis Manon Brunel de l'organisme Illusion Emploi. C'est pas souvent moi qui ai été à l'animation, vous êtes plus familier avec les voix de Sandy, de Marie et de Roxane. Mais les filles ont fait des bébés, puis Roxane est retournée ses bancs d'école, fait que c'est moi qui vais prendre la relève d'ici la fin de l'été. Peut-être que ce serait bon qu'on se rappelle c'est quoi Illusion Emploi, là, pour ceux qui seraient nouveaux pour nous ou des anciens qui se rappellent pas nécessairement c'est quoi notre travail. On est un organisme de défense de droits et de promotion des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués, toute une nuance. Et nos émissions essaient de faire un lien avec l'emploi, les conditions en emploi, le syndicalisme, les luttes sociales, ces choses-là. Aujourd'hui, je vais recevoir un de mes collègues du centre communautaire sur la rue Laurier, qui est Claude Apollon de la Ligue des droits et libertés, directement en lien avec les droits. Et on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Puis pour débuter, on va commencer avec la journée du 17 décembre. Très peu de monde sont au courant. Moi, la première, je l'ai appris pour la première fois cette année, mais le 17 décembre, ça a été décrété la journée internationale des travailleurs migrants, si je ne me trompe pas, Claude.
Oui, bonjour, Manon. Donc, je suis content de commencer l'année avec toi, commencer ta nouvelle saison avec toi. Oui, le 17 décembre 2009, il y avait la Convention des États-Unis sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc, c'est un forum qui a eu lieu à Montréal, où ce qu'on a parlé des droits des migrants, où ce qu'il y avait des films sur le travail des migrants. Donc, c'est une journée qui s'est bien passée. Moi, j'ai pas pu y être, mais les gens de la Ligue Montréal y étaient.
Là, tu nous dis qu'il y a eu une activité le 17 mai. J'ai vu passer dans les médias qu'il y avait le 18, la journée internationale. On avait décrété que c'était devenu une journée internationale.
Exactement.
C'est ça? C'est pour souligner la part et essayer de se sensibiliser, de réfléchir sur toute la question du travail migrant, la migration économique, autrement dit. Et pourrais-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus, Claude?
Premièrement, comme je te disais, il y avait, lors de cette journée-là, du 17, qui venait communier la journée du 18, il y avait un film qui s'appelait « Nous sommes tous égaux », exposition de photographies, de films sur les migrants haïtiens, présentement qui sont dans les batailles en République dominicaine, ce qui veut dire dans les champs de canne à sucre, par Mme Louise Renaud. Il y avait présentation d'un livre aussi, et présentation, comme je vous l'ai dit, de la Convention internationale sur la protection des droits et des travailleurs migrants. Qu'est-ce que cette convention-là fait, entre autres? Elle fait qu'elle reconnaît le travail des migrants et des migrantes et de leurs familles. Donc, lorsqu'ils viennent travailler au Canada, puis particulièrement dans notre cas au Québec, ces gens-là ont le droit aux mêmes protections que les résidents canadiens ou les résidents permanents. Ça veut dire liberté fondamentale, procédure équitable, droit à la vie privée, égalité entre les migrants et les ressortissants, transfert des revenus, le droit à l'information, des travailleurs, droit d'être temporairement absent, liberté de mouvement, égalité entre migrants et ressortissants internationaux, droit de travail, toutes ces choses-là, donc salaire minimum, toutes les protections qu'on retrouve habituellement pour les travailleurs.
Mais Claude, tu nous parles de la convention qui existe depuis déjà quelques années. Est-ce que le Canada et le Québec ont ratifié ces conventions-là?
C'est ça, la convention existe depuis 2003. C'est un peu comme l'extension du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et collectifs. Cette convention-là a été signée par le Canada. Il y a encore des pays qui ne l'ont pas ratifiée, comme habituellement, il est toujours les pays les plus récalcitrants au niveau reconnaissance du droit du travail.
Bon. Et si on en parle, c'est certainement parce qu'il y a quand même des problématiques. Nous, on a vu Illusion Emploi cette année et par les années passées aussi, c'est beaucoup posé des questions sur la problématique de la migration du travail parce que de plus en plus, on va avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère, on nous le dit, à cause d'une pénurie. Puis aussi parce qu'il ne faut pas se le cacher, pour l'entrepreneur ou l'employeur, c'est souvent très avantageux. C'est une main-d'œuvre docile, hein? On a peur d'être rapatrié, mais on a besoin de ce revenu-là parce que souvent, on fait vivre notre famille à l'extérieur du pays avec ce revenu-là. Mais quand je pense à toute la question, entre autres, des travailleurs saisonniers migrants, ceux qui travaillent dans des fermes, communément au Québec, c'est une population quand même, je crois que c'est autour de 10 000 personnes qui viennent annuellement. On a augmenté beaucoup le nombre de personnes qui viennent travailler. On sait quand, par contre, que ces personnes-là, malgré le fait qu'on dit qu'ils sont protégés, dans les faits, c'est pas tout à fait vrai, là. Il y a, bien sûr, la protection des lois qui devraient s'appliquer, mais est-ce qu'il n'y a pas des abus? Est-ce qu'il ne faut pas contrôler le tout? Est-ce qu'il ne faut pas revoir les mécanismes?
Exactement. Je pense que ça passe toujours par ce que vous faites présentement, ce qui s'appelle la conscientisation, l'information pour pouvoir faire la promotion de ces droits-là. Comme tu m'as dit, Manon, tout à l'heure, je prends l'exemple des travailleurs migrants saisonniers dans les fermes. Il y a un exemple qui s'est passé non pas en 1954, mais en 2008, dans la région de la Montérégie, où ce qu'il y a il y avait une travailleuse d'origine haïtienne qui travaillait, bon, il y était tout un groupe de travailleurs qui travaillaient sur une ferme, et puis il y avait sur cette ferme-là un endroit où ce que les gens de couleur, les Noirs, pouvaient aller manger et un autre endroit pour les autres.
Donc, on vivait encore de la discrimination.
De la discrimination directe. Encore en 2008, il y avait encore ça. C'était, il y avait un endroit pour qu'ils puissent aller prendre leur douche et c'était vraiment, vraiment inconcevable. En 2008, ça passait devant les commissions des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui ont fait une rectification, de la mesure.
Okay. Bon, écoute, Claude, je pense qu'on pourrait longtemps s'étendre sur le sujet, à moins que tu aies d'autres commentaires à nous passer. J'aimerais juste rappeler aux auditeurs et auditrices que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Illusion se préoccupe beaucoup. On n'est pas isolé, on n'est pas le seul groupe à s'occuper de ça. Vous pouvez surveiller Amnesty mène présentement une campagne. La Ligue a mené ou mène peut-être encore une campagne sur cette question-là. Différents groupes de défense des droits se préoccupent de cette question-là. Vous allez certainement en entendre parler au cours des prochains mois parce qu'on essaie de créer une coalition nationale pour essayer de réfléchir là-dessus et de forcer le gouvernement tant au niveau de la loi de l'immigration, des statuts des travailleurs, que les droits au travail. Il y a beaucoup d'éléments dans ce dossier-là et c'est pas évident d'arriver à trouver une façon de faire qui va faire l'affaire de tout le monde, autant pour la population d'ici que la population des pays qu'on va chercher, puis leurs familles qui sont là-bas. Alors, Claude, sur ces quelques mots, je pense qu'on pourrait peut-être déjà annoncer notre prochain sujet. Si tu me permets, on avait dit qu'on aborderait d'autres sujets. On aimerait ça que tu nous parles un peu de la campagne que mène présentement la Ligue des droits et libertés qui s'intitule « On nous fiche, ne nous en fichons pas ». Ça serait intéressant d'avoir le point de vue de la Ligue. En passant, Illusion a appuyé cette campagne-là et vous pouvez, tout individu, pour appuyer la campagne. Tantôt, Claude sera à même de nous donner les coordonnées du site Internet et la façon d'appuyer la campagne. Alors, sur ces quelques mots, on pourrait peut-être s'en aller à la pause musique et revenir par la suite. Merci.
OK. Vous allez entendre Noir Silence. Je reste avec toi.
Malgré le naufrage, pour avoir vogué, CFLX FM
95,5. CFLX.qc.ca.
Alors, rebonjour et bienvenue à nouveau à notre émission La Complainte du Travail. Tel que mentionné avant la pause, je vous avais dit qu'on aborderait un autre sujet avec notre invité, M. Claude Apollon de la Ligue. Effectivement, on va parler de la campagne que mène la Ligue qui s'appelle On ne nous en fichons pas. Et les incidences de cette campagne-là. Alors, je cède la parole à Claude.
Oui, donc merci Manon. Premièrement, je voudrais inviter les gens. Le colloque a lieu cette fin de semaine, les 29 et 30 janvier 2010, à l'UQAM, à Montréal. Donc, on peut s'inscrire sur le site de la Ligue ou tout simplement en allant voir sur le site de l'UQAM, vous allez voir un onglet à cet effet. Donc, on va avoir un colloque sur la protection des renseignements personnels à l'ère des technologies de l'information et des communications. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir parler, telle Mme Stoddard, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, et plusieurs autres personnes. C'est vraiment au niveau des libertés fondamentales, au niveau du droit à la vie privée. De plus en plus, il y a des incursions de l'État dans les communications, dans les rapports qu'on a et dans les renseignements que l'on a. Donc, c'est vraiment une intrusion qui a commencé depuis 2001 et puis qui continue à progresser. Souvent, les tenants du oui pour ces intrusions-là disent « lorsqu'on n'a rien à se cacher, ça ne devrait pas nous déranger ». Donc, je pense que c'est là-dessus, moi, je pense que les gens devraient vraiment penser à réfléchir pour dire que c'est pas parce que on peut avoir rien à se cacher, mais on a quand même droit à la protection de nos renseignements privés.
Mais est-ce que ça a des incidences pour des ventes? Tantôt, on parlait des travailleurs étrangers qui peuvent venir ici, soit les temporaires ou soit avec un statut de travailleur. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des gens qui ont été refloués ou empêchés de venir travailler parce que, justement, avec un système de fiches, on avait pu déterminer, je ne sais pas moi, qu'il y avait soit de la parenté qui était dans un groupe terroriste ou des alliances possibles ou autre. On est paranoïaque un peu là maintenant, là, depuis le 11 septembre 2001. On est en train de créer des réseaux partout et des complots partout. Exactement. Mais est-ce que ça a eu des incidences que vous avez vu, vous autres?
Moi, je sais que je ne pourrais pas faire un lien direct, mais c'est sûr qu'au niveau du profilage racial qui est en lien, oui, il y a des incidences. Parce que lorsqu'on est déjà à la base, on te dit déjà en partant qu'il y a un profilage racial qui se fait dans l'acceptation des gens ou dans la venue de gens. Donc, ça exclut un type de personne. Habituellement, ce sont des gens qui ont des caractéristiques là, de la communauté arabe ou musulmane. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des incidences, mais je ne pourrais pas faire un lien direct avec ça. Au niveau de l'emploi, par rapport on nous fiche, nous ne nous fichons pas, ça peut aller aussi loin que les caméras qui vont appeler des caméras de sécurité dans le milieu de travail. Ce qui fait que je prendrais l'exemple des CPE, des centres de la petite enfance. Il y a déjà eu des projets où ce qu'on demandait, est-ce qu'on pourrait installer les caméras de surveillance dans le milieu de travail? Comme ça, les parents, les mères, parce que ça se fait déjà en Grande-Bretagne, ils ont un lien direct avec l'enfant. Ça veut dire que tu ouvres ton ordinateur ou tu es sur l'ordinateur en train de travailler, tu ouvres un onglet, puis tu peux voir ton enfant qui est en CPE, qui est en train de jouer ou de faire des activités éducatives.
Quel est l'intérêt de savoir ce que son enfant fait à la garderie? Est-ce que c'est vraiment important de savoir, si ce n'est que pour filmer la personne responsable de la garderie puis vérifier si elle fait bien le travail ou quand elle nous dit qu'elle fait des activités éducatives, si les enfants ne sont pas carrément en train de dormir? Mais il me semble qu'on vit vraiment dans la paranoïa ou dans la surveillance extrême.
Exactement, c'est ça. L'intérêt, tu l'as bien demandé, c'est souvent, ils vont au niveau de la sécurité. Ils vont dire que pour savoir, pour rassurer les parents, tu as un lien direct tout le temps avec ton enfant. C'est ce qui était mis de l'avant. C'est sûr que les syndicats ou les gens du droit des travailleurs vont dire « Regardez, c'est inadmissible. » Parce que pour l'ambiance de travail, c'est toujours difficile de travailler quand on sait qu'on a tout le temps quelqu'un par-dessus notre épaule qui nous travaille. Même si on ne fait rien de mal, c'est juste pas une ambiance de travail que je pense qui est à rechercher.
Non, ça, je comprends parfaitement. Est-ce que la Ligue va mener cette campagne-là longtemps? On dit que présentement, vous êtes en campagne. C'est quoi le but? C'est le dépôt de pétition? C'est des lettres d'appui? De quelle façon vous menez votre campagne?
C'est vraiment au niveau des lettres d'appui et la promotion du droit à la vie privée. Donc, ça veut dire de tenir des activités de formation et de conscientisation pour pouvoir éveiller les gens le plus possible. La Ligue a toujours un slogan, c'est que nos libertés sont notre sécurité. Plus nos libertés vont être mises de l'avant, plus qu'on va vivre dans un monde sécuritaire. On croit beaucoup plus à ça qu'à toutes sortes de répressions là, qui n'ont pas montré des résultats probants.
Parfait. Alors, tu nous rappelles là, la Ligue. Pourrais-tu nous dire, Claude, les endroits où on pourrait trouver la pétition en ligne ou ces choses-là, si les auditeurs ou auditrices voudraient pouvoir participer à votre campagne?
Oui, ils peuvent aller sur le site Internet qui est www.liguedesdroits.ca, qui est le siège national où est-ce que toutes les pétitions, les lettres d'appui sont. Ils vont avoir les coordonnées du colloque et ils vont pouvoir s'inscrire en même temps. Le colloque a lieu le vendredi 29 janvier à 19h et samedi le 30 janvier de 9h30 à 16h.
Je présume aussi que vous allez à un moment donné faire le suivi. On peut aller sur votre site puis voir ce qu'il y en est parce que, comme tu disais tantôt, il y a quand même des actions de sensibilisation. Je présume aussi peut-être des rencontres avec les députés, ministres et autres pour essayer de sensibiliser davantage. Alors, tu pourras nous revenir là-dessus à un autre moment. On pourrait peut-être te réinviter aussi pour nous livrer les résultats de la campagne.
Ça me ferait plaisir.
Maintenant, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments d'information sur cette campagne-là, Claude? Parce qu'on pourrait peut-être aborder un sujet puis revenir...
Non, c'est seulement pour dire que en retour du 30 janvier, je ferai un suivi de la pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Je pourrais faire le suivi en région du colloque. Donc, ça me ferait plaisir de revenir à cette table.
Parfait. Comme on vous l'avait annoncé, on avait dit qu'il y aurait plus de sujets. On n'avait pas eu le temps tant que ça, moi et Claude, pour se préparer ce matin. Fait qu'on ne savait pas si on aborderait plusieurs sujets, mais on avait mis en réserve. Et comme c'est très d'actualité, on le sait, avec ce qui s'est passé à Haïti dernièrement, il y a beaucoup de campagnes qui ont été des campagnes de lever le fond. On a vu des spectacles. Bon, ça se continue encore, puis ça va devoir se continuer encore un certain temps pour la reconstruction d'Haïti. Mais il y a des incidences aussi au niveau de l'immigration. Et Claude va pouvoir nous faire un peu le topo d'où ça en est, parce qu'on sait, on a vu passer dans les médias des demandes à l'effet d'essayer d'assouplir les règles pour permettre aux enfants orphelins d'être accueillis rapidement dans les familles, ou la réunification de familles, parce qu'on peut peut-être avoir un oncle, un frère ici, une tante, ou quelqu'un qui pourrait nous parrainer. Alors, j'aimerais ça que Claude, tu nous fasses un bout là-dessus pour nous expliquer ce qu'il en est, puis où ça s'en va, là, puis est-ce que le gouvernement a décidé finalement de répondre à vos demandes?
Oui. Premièrement, je vais profiter de ta tribune, Manon, pour pouvoir dire toute ma sympathie à la communauté haïtienne qui est en Estrie, la communauté haïtienne de Montréal et aux gens d'Haïti.
Ainsi qu'à ta famille, parce que Claude est lui-même un haïtien d'origine.
On m'avait sollicité avant pour pouvoir faire des articles dans le journal ou des entrevues, puis je ne me sentais pas...
Émotivement prêt.
Mais j'ai pu travailler, j'étais content, j'ai pu contribuer à la rédaction des mesures d'accueil et d'immigration du Canada en regard des situations d'Haïti. Donc, il y a une lettre qui a été écrite à M. Jason Kenney, ministère de l'Immigration, et Mme Yolande James au provincial, donc au fédéral et au provincial, sur les mesures d'assouplissement pour la réunification des familles. Il y a plusieurs mesures. C'est sûr que je fais la nomenclature à la radio, ça risque d'être long, je vais les résumer. C'est que premièrement, c'est que on demande un assouplissement, ça veut dire que tout ce qui est capacité financière, parce que souvent les gens qui demandent de parrainer doivent commencer par le gouvernement fédéral. Donc le gouvernement fédéral, ils remplissent le dossier avec le gouvernement fédéral donne son accord, il y a des coûts à ça. Et après ça, le gouvernement fédéral le donne au provincial. Donc, il faut recommencer une autre étude. Le gouvernement provincial, lui, va regarder les capacités financières. Donc, on a déjà déboursé au gouvernement fédéral. Et puis, on peut s'apercevoir qu'en cours de route, le gouvernement provincial va dire, « Monsieur, madame, vous n'avez pas les capacités financières pour pouvoir parrainer quelqu'un. » Donc, vous avez dépensé entre 1 000 et 1 500 pour vous faire dire à la fin que non, juste au niveau financier, vous ne pouvez pas. Donc, on demande premièrement l'abolition de ces coûts-là. Donc, tout coût, habituellement, c'est entre 1 000 à 1 500 que ça peut coûter. On demande l'abaissement des capacités financières, ce qui veut dire que quelqu'un qui vit au Canada présentement, une famille de trois personnes, doit avoir 56 000 de revenus familiales pour pouvoir parrainer une ou deux personnes. Donc, c'est toutes ces mesures-là qu'on demande un assouplissement. On demande un assouplissement des critères, donc de élargir comme à frères et sœurs et toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr.
C'est-à-dire, oncle, tante, plus la famille plus élargie.
Exactement, d'élargir plus. Surtout quand on connaît la façon de vivre en Haïti, c'est vraiment.
C'est ça, la communauté.
La communauté, exactement. Donc, c'est toutes ces mesures-là. Mais ces mesures-là sont toutes sur le site que je vous ai dit tout à l'heure, www.liguedesdroits.org.ca. Vous allez pouvoir aller voir ça.
Claude, est-ce que tu peux nous dire s'il y a déjà eu d'autres exemples dans d'autres catastrophes où on a facilité? Est-ce que le Canada, ce serait une première ou si ça s'est déjà fait dans le passé? Es-tu au courant si ça s'est déjà fait, qu'on a assoupli dans des cas de guerre ou autre, de génocide ou autre?
Moi, je sais que les gens font souvent référence au tsunami. Tsunami, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a assoupli les critères financiers. On n'a pas élargi. Au niveau du Kosovo, lorsqu'il y a eu la guerre civile là-bas, les guerres qu'il y a eu, oui, là, il y a eu un élargissement.
OK. Donc, ce n'est pas une première. Quand on dit que ce n'est pas irréaliste, ce ne serait pas vrai. C'est
réaliste.
C'est précédent. C'est vraiment un choix de gouvernement, comme souvent les gouvernements peuvent faire des choix.
Exactement.
Mais c'est un choix humain à faire.
Exactement.
Et on souhaite que ça va passer. Est-ce que vous avez des nouvelles positives de vos demandes?
C'est sûr qu'au niveau on a été extrêmement contents au niveau du Québec. Mme Yolande James était ouverte à l'idée d'évaluer. M. Kenney était plus fermé.
Et maintenant, les gens attendent encore en Haïti.
Exactement. Les gens ont la capacité de dire, regardez, envoyez-nous, laissez rentrer avec des visas temporaires nos frères ou nos sœurs, et puis on va s'occuper d'eux pendant 2-3 mois. Financièrement, on ne vous demande absolument rien, juste pour qu'ils puissent souffler. Et bon, mais le ministère, le gouvernement canadien a l'air fait la sourde oreille là-dessus.
Bon, on va souhaiter que ça va modifier en cours de route, là, puis que les esprits vont s'ouvrir et les cœurs aussi. Là, on va retourner à une pause musicale. Après la pause, nous vous reviendrons avec le mot de la fin.
Merci.
Vous allez entendre Eve Bernard pour que je te retrouve.
Yeah.
Alors, nous revoici à nouveau pour le mot de la fin. En terminant, je tiens à vous rappeler que notre émission sera dorénavant diffusée les derniers mardis du mois. Alors, rappelez-vous, dernier mardi du mois. Notre prochain rendez-vous sera donc le 23 février. Mais vous pouvez réécouter cette émission, celle d'aujourd'hui, ainsi que toutes les émissions qu'on a faites depuis le début, qui sont des émissions très intéressantes, soit dit en passant. Allez sur notre site Internet au www.illusionemploi.org. Sur ces quelques mots, je vous dis à la prochaine et je laisse Claude vous dire le mot de la fin.
Je te remercie, Manon. Merci pour l'invitation. Donc, comme je dis à tous, je vous rappelle que le 29 janvier, donc vendredi, et le 30 janvier, c'est vraiment le colloque sur « On nous fiche, ne nous en fichons pas ». Les inscriptions, ça se passe à l'UQAM, à Montréal. Donc, les inscriptions peuvent aller, vous pouvez aller sur le www.liguedesdroits.ca. Et je vous rappelle que la Ligue des droits et libertés, section Estrie, est située au 187 rue Laurier. Vous pouvez nous rejoindre dans le 819-346-7373. Il nous fera plaisir de vous répondre concernant des questions concernant les droits et libertés. Merci, Manon.